Bonjour, c'est Sarah Giraudot. Vous écoutez Pop Pop Pop. Pop Pop Pop, c'est pop. Pop Pop Pop, c'est parti.
Pop-opienne, pop-opien et tous les autres aussi, bonjour. Quand on aime la vie, on va au cinéma, clamait il y a quelques années un célèbre slogan. Notre invité d'aujourd'hui applique cette recommandation à la lettre, au point, et j'en frémis, ou plutôt j'en frémeaux, qu'il passe le plus clair de son temps dans l'obscurité. Et oui, il est délégué général du Festival de Cannes. Est-ce une vie? C'est une question que nous allons lui poser, que de voir 700 films par an, soit deux par jour, et de n'avoir plus de vie justement que celle rythmée par le cinéma, se privant ainsi de saines activités en plein air, telles que le canoë-kayak, la kayak, la cueillette de champignons dans l'arrière-pays ariégeois ou l'élevage du marcassin dans le Bac-Quercy. Parce que là, on parle d'un sacerdoce, surtout si l'on part du principe que les 700 films visionnés annuellement ne sont pas tous aussi réussis les uns que les autres, et c'est un euphémisme. Pour un parasite, palme d'or du dernier festival de Cannes, combien de la 7e compagnie chez les nudistes? Et c'est sans aucun doute pour cette raison, pour compenser cet excès d'obscurité et pallier à une éventuelle carence en vitamine D, qu'il s'est empressé de créer il y a 10 ans le prestigieux festival Lumière, dont nous allons parler aujourd'hui.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
Bonjour Thierry Frémaux.
Bonjour.
Jean Frémis, ou plutôt Jean Frémaux, vous validez?
Pardon.
Vous validez?
Oui, je valide. Oui, je valide tout. Ben, je valide tout d'avance.
Vous êtes prêt. À mes côtés, celle qui ne se sent pas comme un parasite dans la 7e compagnie chez les nudistes, Charline Roux. Bonjour,
comment
Charline.
Comment je dois le prendre?
Comme vous le voulez. Bonjour,
d'accord,
Charline.
Bonjour, Antoine. Bonjour, Thierry.
Au menu également de ce pop-pop-pop ciné-cinéma Chicha, le réalisateur Ang Lee pour nous parler de Gemini Man. Et évidemment, nous avons posé la question de l'émission. Ang Lee, on lui a-t-on dit, pour vous, c'est quoi la pop culture?
I think pop is something that's useful.
La pop culture, ouais, je crois que c'est utile.
It has to be simple and catchy.
Faut que ce soit simple, il faut que ça vous prenne tout de suite.
And whimsical.
Et puis, il faut que ce soit un petit peu capricieux, fantasque.
If you can tell what it is, it's not pop or cool enough. It's something. It prevails so easily, but
quelque
everybody thinks it's a secret.
C'est quelque chose qui gagne partout, qui devient viral, et puis tout le monde s'interroge, tout le monde croit que c'est un secret.
It works in a mysterious way that
ça se répand partout, ça opère de manière mystérieuse.
I wish I know the
J'aimerais
formula.
Bien d'ailleurs connaître la formule.
Merci Ang Lee, la suite de l'interview tout à l'heure, mais avant ça, à votre tour Thierry Frémaux, pour vous, c'est quoi la pop culture?
Ben, après cette définition très poétique d'Ang Lee, je ne sais pas. Moi, j'ai entendu le mot pop la première fois dans la chanson de Léo Ferré qui s'appelle Dans les pop. Oui, Dans les pop, que mes parents écoutaient. D'ailleurs, moi, j'écoute toujours beaucoup Léo Ferré. À l'époque, pour Léo Ferré qui chantait les poètes, la pop, c'était presque le rock. C'était pas encore le rock. C'était entre pop et rock, d'ailleurs, dans les rayons des disquaires,
c'est
on voit toujours pop rock.
Avec le groupe Zoo, à l'époque.
C'est ça, hein, voilà. Ouais. Quand ils chantaient des choses assez formidables, électrifiées, quoi. Ouais. Après être passé du piano et de la voix à un groupe. Et non, pour moi, la pop, c'est un état d'esprit, plus qu'une musique précise. Même si on sait à quoi la musique ça se réfère. C'est-à-dire plutôt le rock anglo-saxon, en tout cas, pour les gens de ma génération.
Bien. La pop, c'est un état d'esprit. Voilà ce que je retiens de votre définition. C'est exactement comme à la fin du film de l'HB, Goodbye Mr. Chance. Oh. La vie, c'est un état d'esprit. Donc, la vie, c'est pop. La pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop. Juste après, 'Cause I Love You, c'est un morceau de la chanteuse Lizzo.
What the fuck are fucking feelings, yo? Once upon a time I was a hoe. I don't even want a hoe no more. Got you something from the liquor store. Little bit of Lizzo and some more. Trying to open up a little more. Sorry if my heart a little slow. I thought that I didn't care. I thought I was loving bad. But
it for you, all my friend. Ready, baby? Will you be my man? Wanna put you on a plane, fly you out to wherever I am. Kept you on the low, I was ashamed. Now I'm crazy about to attach your name.
Cause I Love You, c'est un morceau de l'album éponyme de Lizzo. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Nous sommes aujourd'hui avec un président. Mais de qui s'agit-il ? La réponse avec son pop portrait présidentiel. Alors oui, votre pop portrait, Thierry, c'est votre portrait. Mais... Et il est signé Charline Araro.
Petit côté de Johnny Hallyday. Aujourd'hui, un invité dont je ne peux m'empêcher de craindre qu'il ne quitte ce studio à un moment donné. Un invité habitué aux lumières. Alors forcément, avec nous ici, j'ai peur qu'il fasse un peu noir. Ne me regardez pas comme ça, Antoine, on se doit d'être lucide. Nos réparties n'ont pas été écrites par des scénaristes de renom, ni des très malins. Quant à nos mises en scène, Ghislain Fontana n'est pas Francis Ford Coppola. Mais je m'égare. Si je parle de lumière pluriel, c'est que notre invité a débuté à l'Institut du même nom, singulier, en tant que bénévole, où il a fait tant de merveilles pour le patrimoine qu'il a fini par y obtenir un poste, puis la direction. Une cinéphilie avisée et un investissement intense qui l'amèneront sous un autre genre de lumière, celle qui éclaire la montée des marches sur tapis rouge de Cannes, puisqu'il est aussi le délégué général du célèbre festival, avec une devise pop qui ne peut que nous plaire. Je préfère un bon film commercial à un mauvais film d'auteur, ce qui me réjouit au plus haut point. De cinéma donc, il sera grandement question aujourd'hui, et un peu de Springsteen aussi, j'imagine que c'est contractuel, le tout avec un homme éclairé.
Merci, merci Charline. Alors, on sait que vous êtes cinéphile Thierry, mais êtes-vous pop portraitophile?
C'est quoi?
Là, vous allez voir. Et pop listophile. Pour le savoir, eh ben, on va passer à votre pop liste. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une série, une musique culte. Thierry Frémaux, pour le livre, votre choix s'est porté sur Radieuse Aurore de Jack London, un roman paru en 1910. Charline, voilà qui nous change de Martin Eden ou de Cro-Blanc. Pour autant, auriez-vous le front de dire à notre invité qu'il s'agit d'un Jack London mineur?
Ah bah non. Non, non, je ne ferai jamais ça, je ne vois pas bien pourquoi. Ce sont les aventures d'un intrépide chercheur d'or qui devient de retour au pays un as de la finance, puis un révolté.
Bien. Thierry, auriez-vous l'amabilité de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît ?
Radieuse Aurore, parce qu'en fait le nom du personnage c'est Burning Daylight, que le traducteur Louis Postif a... Radieuse Aurore était installée de telle sorte qu'il pouvait voir le coude du fleuve de derrière lequel, un jour ou l'autre, arriverait la seconde débâcle. En plus, et plus il regardait, plus il avait l'impression de se replonger dans un passé, de remonter dans un temps où la terre n'était occupée ni par l'Indien ni par le Blanc, de voir perpétuellement la Stewart de toujours prise hiver après hiver sous les glaces et printemps après printemps se dégager de sa gangue à grand fracas pour laisser librement aller à ses eaux. Il vit également l'avenir infini, quand les dernières générations auraient disparu de la face de l'Alaska, ce fleuve immuable, tantôt glacé, tantôt rompant ses digues, coulerait encore et coulerait éternellement.
Merci Thierry. Alors, pourquoi ce Jack London-là, plutôt,
que Martin Eden ou Cro-Blanc. Qu'est-ce qu'il a su d'être particulier?
J'aurais pu dire Martin Eden. Ouais. J'aurais pu vous réciter par cœur le dernier paragraphe d'ailleurs. Mais d'abord, Martin Eden, ça va, c'est fait. Tout le monde connaît, si j'ose dire. Et ceux qui ne connaissent pas doivent.
Il y a une adaptation cinéma qui arrive d'ailleurs.
Oui, de Marcello Pietro. Ouais. De Pietro Marcello, qui est une adaptation très italianisée sur les migrants italiens. C'est plus les migrants Lascas. C'est très très réussi, c'est très beau. Ça sort bientôt. Non, Radio Aurore, c'est un livre méconnu, pas mineur, mais méconnu. Mmh. Il y en a plein, Le Vagabond, Les Étoiles, La Vallée de la Lune chez Jack London. Il n'y a pas que les livres. Celui-là commence dans le Grand Nord, donc il est dans des terrains connus pour ceux qui connaissent Jack London, et se termine vraiment sur une réflexion sur le capitalisme, sur le pouvoir, sur la réussite, la richesse, et avec l'idée finale que finalement, non, tout ça n'est rien par rapport à l'immuabilité de la terre et de la vie paisible avec les siens.
Vous me donnez envie de le lire. Radio Aurore de Jack London, le choix de Thierry Frémaux. Pour le film, vous n'avez pas choisi un film, mais quatre, ça m'aurait étonné. Le premier film jamais projeté, c'est-à-dire La sortie des usines Lumière, des frères Lumière, Mes meilleurs copains de Jean-Marie Poiré, Pierrot le fou de Jean-Luc Godard et Dites-lui que je l'aime de Claude Miller. Alors on va en rester à Mes meilleurs copains, si vous le voulez bien, de Jean-Marie Poiré. Charline, deux mots sur ce feel-good movie avant l'heure, à regarder sous la couette pour se réconcilier avec l'humanité, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait, Antoine. Jean-Michel, Clavier, Richard, Lanvin, Guido Bacri, Antoine Corsan et Dany Darroussin, fringante bande de quarantenaires, se retrouvent à l'occasion de la venue à Paris d'une rockstar québécoise, Bernadette Legrandbois, Louise Portal, qu'ils ont connue durant leur jeunesse.
On s'est connus au lycée, mes copains et moi, en 1964.
Ça vous intéresse de voir baiser la prof de sciences nat avec Téliton,
le prof d'anglais?
De cette expédition homérique est née une amitié de 20 ans. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de cette épopée sans pareil?
Elle s'est mariée avec ce gros con et ils sont en pleine scène de ménage!
Je t'en supplie, saute là!
Alors là, si ça doit être règlement de compte à Hockey Corral, vous aurez peut-être mieux annulé le week-end.
Ce sont vraiment mes meilleurs copains et vous devriez les adorer pas mal vous aussi.
Thierry Frémaux, vous confirmez, c'est un film à regarder sur la couette pour se réconcilier avec l'humanité.
Oui, dans l'avion, sous la couette, dans une salle de cinéma, dans un festival.
Sous une couette, dans un avion même.
Ça surprend d'ailleurs que peut-être que j'ai choisi ce film-là, mais c'est ce que vous disiez. J'ai dû dire ça, que je préfère un film commercial réussi. En fait, c'est les séparations qui sont un peu... Même Mes meilleurs copains est un film d'auteur. Il n'y a pas un cinéaste qui se met à sa table de travail en ne pensant pas dire quelque chose qu'il a en lui, quoi. Mais ce film-là est en plus très très drôle, raconte quand même quelque chose des années 70, enfui, à l'aube de ces années 80 qui sont celles de l'argent, de la réussite. Jean-Pierre Darroussin, dont on a entendu la voix, était à l'époque très inconnu et il cassait tout dans le film. Non, et Jean-Marie Poiré, alors, j'ai choisi Dites-lui que je l'aime aussi parce que c'est un film magnifique de Claude Miller avec Gérard Depardieu et Miu Miu et Dominique Lafin. Et Dominique Lafin, à laquelle on rend hommage à Lyon, sa fille Clémentine Autain a écrit un livre sur elle, livrant d'ailleurs plein de secrets, parce qu'on se posait plein de questions sur cette espèce de comète magnifique du cinéma français, disparue très très tôt, et elle avait tourné dans le premier film de Jean-Marie Poiré, qui s'appelait Les Petits Câlins. Donc tout à coup, il y a un lien, voilà.
Oui, nous recevons un expert.
Aucun doute là-dessus.
Bien. Alors, j'ai un film, j'ai un livre, il me faut une série. Et là, vous me rassurez, Thierry, en avouant que vous regardez peu de séries, car je vois pas très bien où vous trouveriez le temps. Vous nous citez pourtant Dans le cerveau de Bill Gates sur Netflix. Charline, que trouve-t-on dans le cerveau de Guillaume Laporte?
105 milliards d'euros. Ah non, ça c'est plutôt à la banque. Dans la série, Gates se confie sur les personnes qui l'ont influencé et ses objectifs toujours audacieux.
Bill is a multiprocessor. He'll be reading something else, but then processing at the same time. He thrives on complexity. He makes a framework in his mind, and then he starts slotting in the information.
If something doesn't line up, he gets really frustrated. It's scary.
But when Bill stills himself, he can pull ideas together that other people can't see.
Je ne l'ai pas vu, cette série. Ce que j'en entends là, c'est presque un suspense presque policier, non?
Oui, alors moi je regarde pas beaucoup de séries, parce qu'en effet, un, j'ai pas le temps, puis deux, c'est une vie que je ferais pas, quoi. Il y a des gens qui, comme nous, pour le cinéma, sont spécialistes maintenant des séries, ont tout vu. Moi, je n'ai pas le temps, par contre, je regarde toujours beaucoup de documentaires, et donc je regarde plutôt sur Netflix ou ailleurs, des documentaires, et ça, c'est une mini-série de documentaires de 3 fois 50 minutes sur Bill Gates. Ça m'intriguait de voir ça, ça vient d'arriver sur Netflix. En effet, Bill Gates est l'un des hommes les plus riches du monde, mais il l'était, ou plutôt il l'est toujours, maintenant il fait autre chose, et c'est c'est un philanthrope qui veut éradiquer la polio, mmh. les choses comme ça. Et le film parle de ça. Et ça m'avait toujours passionné que ce type-là, qui était un chien de l'industrie, à un moment où il fallait bagarrer pour Microsoft, pour les logiciels, etc., se sont ensuite transformés en une sorte de d'agneau humaniste avec son épouse, fondant une fondation, haranguant ses collègues milliardaires pour qu'ils viennent financer la recherche médicale. Il est aujourd'hui le plus grand philanthrope privé, même donnant plus que les États. Et la série est passionnante pour voir comment, en effet, son cerveau fonctionne. Il avait tout, et c'est pas le pape François qui, comme dans le film de Wenders, vraiment lave les pieds des pauvres, mais c'est tout comme, quoi.
Si vous regardez peu de séries de télé, donc, est-ce que c'est parce que, comme dit Godard, le cinéma crée de la mémoire quand la télévision crée de l'oubli ?
Disons que oui, je pense que le cinéma, le grand écran, la victoire de Louis Lumière sur Thomas Edison il y a 125 ans, oui, je pense que le cinéma donne quelque chose qui nous reste. Quand la télévision nous reste aussi, mais c'est autre chose. Et c'est pas parce que télévision et cinéma, c'est de l'audiovisuel, c'est du langage des images. Quand le cinéma parlant est arrivé, on a dit ça allait tuer le théâtre. Ça n'a pas tué le théâtre. Et la télévision, les plateformes, etc., ne tueront pas le cinéma, qui reste quelque chose de... On veut nous faire rester chez nous. Qu'on commande des pizzas, qu'on commande des films, qu'on commande... Et non, on a parfois envie d'aller au stade, alors qu'on a les matchs à la maison. Nous deux, on a tous les disques possibles et imaginables, secrets officiels de Bruce Springsteen, mais rien ne vaut un concert. Et ben, le cinéma, c'est pareil. Aller voir un film sur grand écran, ça n'est pas... ça n'est pas comme le voir à la télévision, en DVD ou en Blu-ray, quand bien même on a tous chez nous des installations formidables. Moi, par exemple, le souvenir, puisqu'on parlait de Coppola, du Parrain numéro 3, c'est quand j'étais allé le voir seul, et j'étais content de le voir seul parce que, du coup, personne ne m'a parlé à la fin du film. Parce que je restais. Mm-hmm. Et je me souviens de où était ma voiture, comment j'ai marché dans la rue, comment, bon. Et donc oui, le cinéma, c'est physique, c'est autre chose.
Pour finir sur Bill Gates, si je vous donne le choix entre avoir le cerveau de Bill Gates ou son porte-monnaie, vous prenez quoi?
Ben, on hésite, hein, après le film, là, tout à coup, il avait ce cerveau-là avant d'avoir l'argent qui va avec. Ce qu'il y a de bien, et c'est pour ça que je voulais parler de cette série-là, c'est qu'il met l'argent qu'il a au service de ce qu'il a dans son cerveau, et c'est de belles idées.
Alors, on finit cette pop-liste avec la musique, et comme nous avons affaire à un Springsteenien, je ne saurais m'en plaindre, c'est évidemment un titre de Bruce dont il s'agit, et comme vous m'en avez laissé le choix, mon cher Thierry, je prends Highway Patrolman, cet extrait de Nebraska en 82.
Yeah, we're laughing and drinking. Nothing feels better than blood on blood. Taking turns dancing with Maria as the band played Night at the Johnstown Club. I catch him when he's street. Teach him how to walk that line. Man turns his back on his family. He ain't no friend of mine.
Évidemment, c'est pas un choix tout à fait innocent, Thierry Frémaux. Il y a un lien direct avec le cinéma, cette chanson de Highway Patrolman, qui a inspiré Sean Penn pour son Indian Runner, un film de 1990, parce qu'il y a une dimension très cinématographique dans la musique de Springsteen.
Oui, c'était le premier film de Sean Penn comme réalisateur. Et oui, quasiment toutes les chansons, tous les textes de Springsteen, qui lui-même d'ailleurs est cinéphile et qui lui-même ne cache pas son admiration. Il a même chanté Les raisins de la colère. Enfin, c'est une adaptation à sa façon du héros de John Ford et de
Tom Jode
et de comment il s'appelle
John Ford, Tom Jode.
Oui, enfin, Tom Jode. Et oui, donc là c'est formidable parce que c'est sur les paroles d'une chanson, le scénario était là, quoi.
Ouais.
Et quand on voit le film et quand on lit, qu'on écoute la chanson, on s'aperçoit qu'il y a pas plus, pas moins, tout était là. Et Sean Penn a fait un film formidable qui avait révélé Viggo Mortensen et le film tient très très bien, et deux, la chanson c'est pour toujours.
Bon, vous êtes satisfait, donc?
Oui, bien. Bon choix, Antoine.
Ok, alors je résume. Jack London, mes meilleurs copains, dans le cerveau de Bill Gates et Bruce Springsteen. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
On s'est connus au lycée, mes copains et moi, en 1964.
If something doesn't line up, he gets really frustrated.
I catch him when he's street.
Ça vous intéresse de voir baiser la prof de sciences nat avec Tilton?
Mais aujourd'hui, que reste-t-il de cette épopée sans pareil?
Man turns his back on his family. He ain't no friend of mine.
Il vit également l'avenir infini. Quand les dernières générations auraient disparu de la face de l'Alaska, ce fleuve immuable coulerait encore et coulerait éternellement.
He can pull ideas together that other people can't see.
Voilà du Thierry Frémaux
remonté. Il vient de faire ça là, ensuite.
Oui,
mais c'est formidable.
Ah, oui, c'est Ghislain Fontanus.
Notre Coppola à nous.
Ah, c'est notre petit Coppola à nous, absolument. Oui. Alors, dans ma pop liste à moi, il y a bien sûr du Bruce, mais il y a aussi du Stéphane Echer. Et ben, je vous propose d'en écouter un petit morceau. C'est Si tu veux que je chante. Bien sûr que je le veux. C'est extrait de son nouvel album.
Si tu veux que je chante, ne sois pas infidèle. Ne me crois pas si fort. Ne me crois pas si faible que je puisse accepter la brûlure et le froid sans perdre le sourire, sans perdre la voix. Si tu veux que j'entende, sois désormais plus clair. Ne me roule plus dans rien, ne brouille plus mes repères. Sous peine de relancer les comment, les pourquoi qui font perdre patience, font perdre la foi. Inutile de m'attendre, une impatiente oreille. Le goût de toi me manque, mais rien ne se réveille. Les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, va comme sec sont mes bras. Les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, va comme sec sont mes bras.
Inter, pop pop pop, Antoine de Caunes.
Et Charline Theroux. C'était un peu la Suisse allemande.
Ouais, enfin, non, les accents, c'est pas votre truc.
Non, vraiment pas. Notre invité aujourd'hui, c'est Thierry Frémaux pour parler du Festival Lumière de Lyon qui démarre le 12 octobre pour sa 10e édition. Alors, Cannes, Festival, Cinéma et Nu sont les occurrences qui viennent en premier lorsqu'on tape votre nom dans Google. Thierry Frémaux. Bon, ok, d'accord, j'en ai ajouté une. Mais aujourd'hui, rassurez-vous, on parle de cinéma car nous recevons le président du Festival Lumière qui débute donc la semaine prochaine. C'est la 10e édition. Autant dire que vous n'êtes pas prêt de rattraper celui de Cannes qui vient de fêter ses 72 balais. Je sais bien que c'est une remarque totalement idiote, mais comme vous avez un pied dans les deux, si je puis dire, existe-t-il une rivalité entre les festivals de cinéma?
Non. D'abord parce que le Festival de Cannes est indépassable, irrésistible et qu'il existe en effet depuis très très longtemps et qu'il est le point de référence autour duquel tourne le reste de toutes les planètes festivalières mondiales. Après, le Festival Lumière est devenu en effet un peu l'équivalent du Cannes du patrimoine, c'est-à-dire qu'on a en France le plus grand festival aussi de films du patrimoine. Moi j'aime bien dire cinéma classique, c'est-à-dire qu'on a mille mots classiques, c'est un beau mot, avec la littérature, la musique, la peinture, donc faut le mettre maintenant avec le cinéma, c'est-à-dire ce sont des films classiques. Et puis des festivals, c'est comme les fromages, disait De Gaulle, il y en a 365 en France, parce que plein de villes ont des festivals de toute nature, de toute taille, et c'est bien, ça met, pour ce qui nous concerne à nous qui sommes cinéphiles, ça met le cinéma à chaque fois au cœur d'une ville, d'un pays, d'une région. Et non, au contraire, ça se nourrit. Là, le Festival Lumière est un peu à part, parce que c'est un festival, en effet, qui... Il n'y a pas pas de compétition, il n'y a pas de cinéma contemporain, il y a quelques avant-premières. Martin Scorsese va venir. Mais la saison des festivals, après celle de Cannes au printemps, c'était là, à la rentrée, Toronto, Venise, New York, San Sébastien, qui est un très très beau festival dans le Pays Basque, là-bas. Et tout ça, ça montre que le cinéma est vivant.
Mais alors, si on parle de particularité, je garde un souvenir ému de story Instagram de Guillermo del Toro à Lyon pour le festival, mangeant des tripes au réveil et autres cervelles des canuts. C'est quand même moins fréquent à Cannes.
Bah parce que ce genre de... vous parlez, ça s'appelle le mâchon. Et ça, c'est un truc assez lyonnais, oui, de se retrouver à 8h30 dans un restaurant pour manger comme s'il était 23h.
C'est moins pratique pour les robes. Quoi.
Surtout Guillermo del Toro qui n'a pas plein la nourriture. Oui.
Mais il y en avait beaucoup. Hein. Il a bien renseigné la gastronomie locale.
Il y avait beaucoup. Et puis c'est un moment assez étonnant parce que vous rentrez à 8h, vous commencez toujours au bar par un café. Et puis après, c'est du condrieu blanc, du macon rouge, du beaujolais, des tripes, tablier de sapeur, enfin des choses un peu lyonnaises. Et vous ressortez vers 10h dans un léger état d'ébriété.
Léger, bien sûr. Oui.
Mais un énorme complexe de supériorité sur le reste de la société, parce que vous avez vécu ça, quoi. Et vous vous demandez pourquoi les gens sont allés travailler normalement.
Alors, l'idée du festival, c'est donc de faire présenter des films d'hier par des artistes d'aujourd'hui, hein, pour qu'il y ait une médiation avec le public. Quel a été le croisement le plus inattendu de ces 10 dernières années?
Je prends souvent cet exemple, et c'était Benicio del Toro, qui me dit, on parle de ça, il était très cinéphile, et je lui dis, ça serait bien que tu viennes. Il dit, écoute, je suis très pris, je voyage beaucoup, bon. Mais tu sais, mon film de chevet, c'est L'île nue. Et L'île nue, c'est un film de Kaneto Shindo, un cinéaste japonais, c'est un film de 61-62, scope, noir et blanc, mutique, quasiment sans bon. Et il dit, si tu le fais restaurer, je viens et je le présente. On le fait restaurer avec Manuel Chiche, le coproducteur français de Parasite, et il dit, je viens. Et il vient, la salle était bourrée, pour lui. Et il dit aux gens, vous savez, moi, quand je suis devant le public, c'est que je suis en promotion. Ouais. On me donne quasiment les éléments de langage. Ce film que vous allez voir est le plus beau film dont j'avais jamais osé imaginer. Il dit, là, je suis pas en promotion, je viens vous parler d'un film que j'aime, voilà pourquoi. Et là, il a été très, très éloquent. Et 2 heures après, les gens avaient vu le film. Ils étaient venus pour lui, puis ils avaient vu le film. Et tout s'organise un petit peu comme ça, avec en effet des affinités non électives, où parfois on s'aperçoit que de grands intellectuels aiment des choses plutôt populaires et grand public, et vice-versa. Édouard Molinaro, qui n'est plus de ce monde, l'auteur de L'Emmerdeur et de tous ces films-là, avait une passion folle pour la Nouvelle Vague. Parce qu'il l'admirait, il trouvait que... Il disait, mais moi, je savais pas faire ce cinéma-là. Et donc, j'admirais ça. Et il était très, très modeste. Et il connaissait tout par cœur. Autant que un critique extrêmement pointu qui pouvait en parler tout aussi bien.
Cette année, la merveilleuse Frances McDormand viendra présenter une partie de sa filmo. Mississippi Burning, Three Billboards, Fargo, Olive Kittredge, presque célèbre. Mais aussi, si je ne m'abuse, La Nuit du Chasseur et La Chevauchée Fantastique. Qu'est-ce que vous en attendez?
C'est elle qui a choisi. Elle a regardé le programme. Elle a dit, ben, moi, je veux ça. Il y en avait d'autres. Elle voulait montrer Harakiri de Kobayashi, mais il n'y avait pas de copie disponible, alors du coup elle s'est rabattue sur ces deux films-là. Je ne sais pas ce qu'elle va nous en dire, j'attends ça avec impatience. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que tout à coup Frances McDormand qui va parler de ses propres films, de sa carrière, et c'est un peu ça aussi le principe festival, c'est parler de ce que les autres ont fait, et oui, c'est assez... C'est assez beau de l'avoir choisi, ce film de Charlton et celui de John Ford, on va voir. Ouais.
Un de vos meilleurs souvenirs du Festival Lumière, Thierry Frémaux, c'est celui-ci.
Dans tous les films que j'ai choisis pour montrer à Lyon, il y a un film de Raymond Depardon qui s'appelle Profil paysan. Et je dédie ce soir ce prix que j'ai reçu à tous les agriculteurs de France.
Catherine Deneuve, donc, qui dédie son prix aux agriculteurs de France. Pour vous, ça prouve que le cinéma, la place du cinéma, c'est vraiment à l'intérieur du monde.
Oui, le cinéma est évidemment une façon de se regarder, de savoir qui on est. Depuis Lumière, le cinéma me dit qui je suis et qui sont les autres. Et donc le cinéma, par la multiplicité des sujets, des points de vue, des nationalités, des générations de créateurs. Et là, on revient à cette chose surprenante d'un Benicio del Toro qui présente un film japonais. Soudainement, l'actrice française la plus glamour qu'on puisse imaginer reçoit le prix Lumière, Catherine Deneuve, mmh. et au moment de terminer son speech, dit je dédie ce film à tous les alors à tous les agriculteurs de France. C'était formidable sur le plan politique. Mmh. Après, on en a beaucoup parlé. Elle, c'est quelqu'un qui aime jardiner, c'est quelqu'un ouais. qui est très proche de ce rapport-là à la nature. Mais elle, c'est une femme libre. Elle aurait pu se dire, je vais pas dire ça, ça fait pas très branché, quoi. Et est-ce que au fond, ça, c'est à vous de répondre. Est-ce que ça fait pas pop mmh. justement d'avoir une Catherine Deneuve qui remercie les paysans français. C'était formidable. On était tous stupéfaits. Hein.
Cette année, c'est Francis Ford Coppola l'invité d'honneur, et comme ses prédécesseurs, il va se livré au délicat exercice de refilmer à sa manière la sortie des usines Lumière, le premier film jamais projeté. Comment ça se passe, ça ? Il lui donne une caméra et puis...
Oui, le lieu est connu, le lieu ouais. est repéré, le hangar du premier film existe encore, le hangar de l'usine Lumière, donc on sait où était la caméra, donc on en remet une, mmh. deux, trois. Lui, il vient avec une caméra à lui, en plus de celles qu'on nous aurons, des caméras numériques. Il vient, là, il m'envoie un mail sur mail technique. Alors, j'ai tel type de négatif, vérifie que le labo mmh. pourra bien le développer, etc. Il est déchaîné, il pense qu'à mmh. ça. Et en effet, le samedi 19 octobre prochain sera tourné à Lyon. En une minute, mmh. puisque les films faisaient une minute, le nouveau film de Francis Coppola. Vous êtes invité, vous pourrez vous dire que dans votre existence, vous aurez été dirigé par Francis Coppola.
Un tournage de Coppola et même été dirigé par Coppola. Enfin, pour finir, je sais que vous rêvez d'inviter Springsteen hein, pour le 10e mmh. anniversaire du Festival Lumière. Vous avez essayé, vous lui avez téléphoné, mais vous êtes tombé sur ça.
Hey, it's Bruce. I'm not on right now, but leave me a message. I'll call you back as soon as I can.
Bruce, à table!
Donc c'est...
Non, non, c'est pas du jeu. Hein. C'est joué sur les relations personnelles.
Bah oui, d'autant plus qu'il est à Londres oui. le 11, ouais, ouais. le 11 octobre prochain pour présenter Western Stars, son film.
Oui, oui, un film. Ça, c'est aussi un des événements de l'automne. Mm. J'aurais pu essayer, il faudrait que je demande aux gens de la Warner, puisque c'est eux qui vont distribuer le film.
Peut-être essayer de goupiller quelque chose.
Oui, de trouver une excuse pour le. Mais non, bah, je sais pas. Bah, non, bah, je vous propose, vous, puisque vous y serez, de le ramener.
Écoutez, je vais faire mon possible. Et je ne vous garantis rien, ça, parce que c'est jamais très simple.
À l'ouverture.
Je ferai mon possible. Faites-lui écouter ce répondeur, je suis sûr qu'il va dire oui tout de suite.
Absolument. Bon, Thierry, vous savez faire plein de choses. Hein. On n'a pas besoin de d'épiloguer là-dessus pendant des heures, mais est-ce que vous savez faire ça ?
Vous le demandez à tous les invités.
Oui, bien sûr. Ouais.
Je ne suis pas sûr. Hein.
Vas-y, essayez.
Mais c'est très humiliant si jamais
je dis. Oui, bien sûr. Ouais. C'est pour ça. Ah, ben il est pas mal.
Non, il est très bien.
C'est un petit pop lyonnais, quoi. Non, il est très bien. C'est pour lancer les pop news.
Gros coup de cœur pour Spencer, et c'est même pas pour la rime. Jeune producteur, compositeur, chanteur de Brooklyn, repéré au début de l'été grâce à un EP streamé à hauteur de millions, et voici son tout nouveau titre, Automatique. Automatique, c'est signé Spencer, dont on attend désormais un album tout entier.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur des services secrets bien particuliers sans jamais oser le demander se trouve dans cette bande-annonce, celle de Kingsman, première mission qui relate les origines de la toute première agence de renseignement indépendante que l'on connaît déjà pour ses deux épisodes déjantés.
Le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de partir en guerre. Le vrai pouvoir réside... dans la compréhension de qui sont vraiment les ennemis que l'on combat et de la manière dont on peut les vaincre.
Kingsman, première mission de Matthew Vaughn, sera le 12 février sur les écrans.
Rendez-vous du 4 au 7 octobre au Monde Festival sur le thème Imagine pour cette 6e édition des débats tels que Trop de films en France, point d'interrogation, des projections, Les Misérables de Lajli, Gloria Mundi de Robert Guédiguian et des rencontres avec notamment Evan Sler, Delphine De Vigan, Fary ou encore Enki Bilal, le tout au cinéma Beauregard à l'Opéra Bastille et au Bouffe du Nord à Paris. Tous les renseignements sur festival.lemonde.fr ou sur franceinter.fr.
France Inter. Popopa. Antoine de Caunes.
Oui, c'est moi.
C'est vrai, c'est vous.
Mais oui, c'est moi. Là, aujourd'hui, c'est moi. Oui. Simplement moi. Voilà. Alors, on a appris en début d'après-midi la triste nouvelle de la mort de Barry Masters, le chanteur d'Eli and the Hot Rods, légendaire combo mélangeant punk et pub rock, est né en 75 dans la même région que le Dr. Feelgood. Hommage, donc. D and the Hot Rods, Teenage Depression et une petite pensée donc pour Barry Masters qui nous a quittés aujourd'hui. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Alors voilà, donc aujourd'hui, un objet cinématographique bien singulier, immersif, visuellement intriguant. C'est mot pour mot ce que vous m'avez dit, Charline, en sortant de la projection de Gemini Man, le film d'Ang Lee, sorti dans les salles aujourd'hui. C'est un commentaire, une fois de plus, édifiant,
c'est vrai.
Ça ne me dit pas de quoi ça parle du tout.
Will Smith y est Henry Bruggen, un tueur professionnel qui veut prendre sa retraite, mais il est soudainement pris pour cible et poursuivi par un jeune agent qui peut prédire chacun de ses mouvements et qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau.
Henri, ça t'était déjà arrivé avant?
Quoi donc?
Que ton gouvernement cherche à t'éliminer?
Non, ça c'est nouveau.
Tout ce que nous avons créé est en danger. Vous n'avez personne capable de tuer Henri Bruggen. Gemini va s'en charger.
T'es qui? Je veux pas te tuer!
Cool! Moi je peux alors!
J'ai la recrue idéale.
Alors, c'est la VF ou Will Smith a fait de gros programmes?
C'est la VF, en
fait. C'est la VF, d'accord. Excusez-moi, mais grosse voix, explosion, intrigue ténue, ça vaut quand même le coup d'œil?
Alors oui, parce que tout ça est filmé par l'homme à qui on doit Tigre et Dragon, Brokeback Mountain ou encore l'Odyssée de Pi. Le film a été tourné en 4K 3D 120 images par seconde. En clair, ça veut dire que le spectateur est avec les acteurs au cœur de l'action. Les scènes d'action sont d'ailleurs visuellement époustouflantes, poursuites corps à corps, fusillades. Mais on a quand même l'impression que ce qui intéresse Ang Lee, bah, c'est l'histoire intime au sein de la grande épopée.
Intimacy comes first.
Oui, je crois que c'est la proximité, l'intimité qui compte en premier lieu. Et je me suis dit que si je n'arrive pas à toucher cette proximité, eh bien, je ne mérite pas de tourner une grande scène d'action. Si je n'arrive pas à faire passer cette proximité. Donc, le niveau micro comme le niveau macro sont tout aussi importants. Je me rappelle, il y a près de 20 ans, j'ai fait ce film, Help. Et la scène la plus importante, c'était un hélicoptère qui tournait autour de San Francisco. Il a fallu sécuriser tout un quartier. En fait, 20 pâtés de maisons, il a fallu évacuer tous les résidents parce que Hulk mettait la ville à sac, l'armée le cernait. Il y avait, on a engagé des milliers de figurants. Et tout ce qui m'intéressait, c'était la manière dont les cheveux de l'héroïne flottaient avec l'air dans l'hélicoptère, etc. Alors ça a rendu dingue mon producteur. Et j'ai dit, si on ne voit pas ses cheveux comme il faut, qui flottent au vent, rien n'a de sens. À quoi bon? Parce que je voulais justement que Hulk soit terrassé par ce sentiment de tendresse.
It's a test of if you can lifting something heavy as if it's very light.
Vous voyez, c'est un petit peu comme quand on essaye de soulever quelque chose de très lourd, mais qu'on veut faire comme si c'était léger.
Thierry Frémaux, Ang Lee faisait partie de la sélection Cannes 2009 avec son film Taking Woodstock. Il était aussi venu sur la croisette en 97 pour Ice Storm. On en déduit que vous êtes client.
Oui, oui, il était venu aussi présenter Tigre et Dragon hors compétition. On revient à l'idée de ce qui serait ou pas auteur. Et Tigre et Dragon faisait film de genre, avait été mis hors compétition pour n'être pas estampillé de ce qu'on croit être devoir être la compétition. Et ça avait fait le film était parti aux Oscars derrière. Il est venu aussi au jury. Il était juré du jury présidé par Steven Spielberg. Et outre le souvenir d'un homme absolument exquis avec qui on peut parler de cinéma jusqu'à une heure avancée de la nuit, ce qui me frappait beaucoup, c'est que Spielberg le respectait énormément. Et Spielberg, chaque fois qu'il disait un truc, le regardait quand il devait imposer une discussion et il se faisait valider quasiment par Ang Lee. Et chaque fois, My Friend, Ang Lee, et c'était assez beau de voir ces deux cinéastes d'origine complètement différente à ce point se retrouver.
Dans Gemini Man, un Will Smith mais deux performances très différentes, hein, l'assassin de 51 ans et le meurtrier de 23 ans décidé à le tuer. Le plus jeune des deux Will Smith est entièrement conçu en version digitale. Comment est-ce qu'Ang Lee a travaillé avec lui? Comment est-ce qu'il l'a dirigé?
Because conflict is drama.
Le drame ou la comédie dramatique, c'est le conflit.
So when we show two sides of a person,
donc quand on montre les deux côtés d'une même
I want
personne,
to separate them as much as I can.
C'est important
so I
de distinguer autant que possible. Donc c'est vrai que j'ai dirigé
actor,
les deux Will Smith avec ce même acteur, bien sûr, mais de manière très différente.
With the same gene, same person,
c'est un personnage qui possède les mêmes gènes, c'est la même personne.
The opposite, one
mais
without
ils
father, one without mother.
Viennent d'origines différentes. L'un n'a pas de père, l'un n'a pas de mère. L'un est complètement sauvage, l'autre est
nature
très discipliné.
Versus,
c'est un peu le combat de la nature et de la culture.
Oui, mais alors le paradoxe, c'est avec cette technologie, Ang Lee risque de mettre des acteurs au chômage.
When people ask me that kind of question, I always joke. It's not a joke.
Bon, c'est une blague, mais en fait, c'est pas une blague. Le jeune Will Smith est beaucoup plus cher que le vrai Will Smith.
I dare you to try.
Will Smith a été membre du jury de Cannes en 2017. Qu'est-ce qu'il incarne pour vous, Thierry Frémaux? Quel regard vous portez sur l'évolution de l'acteur?
L'idée que, comme souvent encore une fois, et spécialement les superstars, il y a évidemment des passionnés de cinéma mmh. et que, à part qu'il soit une superstar, c'est un comédien, il veut faire son métier de comédien, donc mmh. il cherche des rôles. Mmh. D'ailleurs, il a été l'un des premiers à précisément aller travailler sur les plateformes, parce que ça rendait possible le fait que des trucs soient tournés pour lui. Après, c'était un homme extrêmement civilisé dans ce jury, obéissant aux règles démocratiques énoncées par le groupe. Et non, il nous avait beaucoup plu. Il avait même été trop sage. Nous, on voulait qu'il se lance parfois dans les rap et tout ça sur scène, et au contraire, il était très impressionné et très respectueux de l'institution.
Ang Lee a fait tourner Will Smith, mais aussi Heath Ledger, Jack Gyllenhaal, Liv Schreiber, Kate Winslet, Emma Thompson, Sigourney Weaver, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi, Chow Yun-fat, Alan Rickman, Hugh Grant. Bref, des profils extrêmement variés. Quelles sont les qualités de l'acteur, de l'actrice idéale selon Ang Lee?
The leading person, man or woman, usually
le rôle principal, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme.
In a funny way, it's a better-looking version of myself.
Souvent, en fait, dans l'idéal, c'est une version améliorée de moi-même. Voilà l'idéal.
I chose both leading men and leading women that way.
Et c'est comme ça que je choisis mes premiers rôles, féminins ou masculins.
They know they play some part of me.
Et ils le savent, ils ont compris qu'ils jouaient
it's
une partie de moi-même.
It's a funny cat and mouse game. I watch them,
c'est
I
un peu comme le jeu du chat et de la souris, je les observe, je vois ce que je peux extraire d'eux, comment je peux
and
utiliser
they,
au mieux
they
cette
watch
partie
me
d'eux.
Part
et eux, ils m'observent également et ils essayent de voir quelle partie de moi
it's
ils peuvent attraper et
implicit,
cerner. C'est intéressant, c'est un échange mental implicite, mais très stimulant. Aucun mot n'est dit, mais tout passe.
Voilà Ang Lee que nous écoutions avec beaucoup de plaisir, interrogé par Charline. Thierry, si vous deviez garder un film de Ang Lee, lequel serait-ce?
Le film sur la guerre de sécession, là, le Cavalier. Oh merde, tout à coup j'oublie son titre. Un espèce de western durant la guerre de sécession, western mm-hmm. fantastique, très beau. Brokeback Mountain, mm-hmm. très très beau, tout. Tigre et Dragon, oui. Ouais. Et puis ça les sucrait, enfin non, mais il y a une œuvre, c'est un géant anglais. Hein.
Bien.
Ouais, il y a Billy Lynn, Lost Caution, il y a énormément de films. Ouais.
En attendant ses futurs projets, Gemini Man d'Ang Lee avec Will Smith, c'est dans les salles depuis ce matin. On approche de la fin de l'émission et c'est l'heure pour moi d'aller chercher le dernier vinyle et à un Springsteenien, on va jouer évidemment un Springsteen. Allez, je prends l'ascenseur.
Bah.
Qu'est-ce que c'est que cette musique de merde? Ah, mais oui, bien sûr, c'est l'ascenseur sourire.
Said those were only the lies you've told me. Those are only the lies you've told me. I pulled my collar to the wind and spit them on the ground. You said those are only the lies you've told me. Those are only the lies you've told me. You said on the edge of our bed in the sun. I felt them gather on my tongue. I woke up this morning. Said those are only the lies you've told me. Those are only the lies you've told me.
Springsteen dans Pop 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 sur France Inter avec Stones, extrait de l'album Western Stars, et j'annonce une petite surprise à venir pour tous les Springsteeniens qui nous écoutent. On verra. Thierry Frémaux, l'actrice Sarah Giraudeau était à votre place hier ici même, et elle a tenu à vous poser 20 questions. Alors par souci de temps, nous ne pourrons en diffuser qu'une, et je lance donc la pop roulette. 7, 10, 14 et 3, et oui, c'est la 3, la question 3 donc.
Bonjour Thierry Frémaux, c'est Sarah Giraudeau dans Pop Pop Pop. Et comme vous êtes un ex-professeur de judo, j'aimerais que vous montriez comment on fait un kataguruma à Antoine Decaune.
Ah, mais c'est pas très radiophonique, mais
non,
je peux.
Non, en plus en restant assis et à distance, s'il vous plaît.
Kataguruma, vous êtes face à moi, je prends votre bras droit, je le lève et je mets ma main entre les jambes et je vous porte sur mes épaules en vous tendant droit là, pour vous rejeter correctement sur le dos et avec une chute, pour que vous ne fassiez pas mal, vous retrouvez par terre, quoi.
Merci Thierry Frémaux.
Sarah Giraudeau qui est très très bien dans le film de ah bah merde, tout à coup ça
me vient d'Angli qui
non,
se passe pendant la guerre de sécession, non,
ah, un film qui sort bientôt,
oui. Petit paysan peut-être,
non,
ah,
oui, mais non
non,
merde, le film de
Bon, je vous laisse réfléchir. Non, oui, voilà. Je vous laisse réfléchir pendant que je vous remercie, Thierry Frémaux, pour la 10e édition du Festival Lumière à Lyon. C'est du 12 au 20 octobre. L'événement à ne rater sous aucun prétexte. Et je rappelle notre autre pop prescription, Jimmy Neiman, le film d'Ang Lee, qui est sorti aujourd'hui sur les écrans. Merci à toute l'équipe de Pop Pop Pop. Demain dans l'émission Lola Doyon, ayez Aïdara, Guillaume Gouix et une certaine Emma Decaune pour la série de Canal+, Moins qu'hier, plus que demain. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones ou un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous, plutôt comme dit Bruce Springsteen à la fin de ses tutos répondeurs sur YouTube. Suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, le 3615, pop 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 sur Instagram et Twitter.